Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7 heures minuit, alors je suis pas bon.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Bonsoir à tous et à toutes, chers auditeuristes de Syllab. Nous sommes le jeudi 6 novembre 2025. Et punaise, il a fait chaud aujourd'hui. Il n'est pas pour habitude de faire la météo dans 6 heures avant minuit, mais qu'à cela ne tienne, moi je vais la faire. La chaleur m'a inspirée, ou inquiétée plus exactement. Alors j'ai fait mes petites recherches. Attendez, on me dit dans l'oreillette le changement climatique. Intéressante théorie. Bon, blague à part, à Rennes, on observe 5 degrés au-dessus des normales saisonnières. Par endroits, les records de chaleur pour la saison sont battus. Les températures sur le nord-ouest de la France viennent d'une dépression observée dans la péninsule ibérique. La dépression, elle touche aussi les côtes de la Manche. Là-bas, à certains endroits, l'été, il fait 21 degrés. Aujourd'hui, ils ont atteint 19 degrés. Alors, on peut se dire, profitons. Oui, mais voilà, un autre genre de précipitation attend la partie sud de la France. Des orages, de la grêle, des vents violents. À l'heure où la COP30 se prépare, on espère que ces signes venus du ciel orienteront nos responsables politiques. Les chaleurs ressenties à Rennes vont se dissiper dans les jours à venir. En attendant, profitons. Bon, et puis voilà, après ce petit point météo finalement, les nouvelles du jour, c'est le journal de Baptiste.
Cap sur l'Amazonie. Aujourd'hui jusqu'au 21 novembre, la COP30 se déroule à Belém, ville portuaire accolée à la forêt amazonienne. Un choix fort du président Lula qui compte mettre les forêts au cœur des discussions. Plus de 50 000 participants sont attendus. Des dirigeants mondiaux, des diplomates, des chefs d'entreprise, des scientifiques ou des membres de la société civile. Plutôt habitués aux grandes métropoles urbaines comme Paris en 2015, Glasgow en 2021 ou Dubaï en 2023, cette ville de Belém n'est pas qu'un choix symbolique, mais aussi politique. Une ville en lien direct avec les problèmes discutés durant ces conférences. Défi logistique de taille pour les organisateurs à Belém. Près de la moitié des 1,4 million d'habitants vivent dans des bidonvilles. Dirigeons-nous un peu plus au nord, plus précisément à New York, où Zoran Mandani bat tous les records. Après avoir été élu avec plus de 50,4% des suffrages à la mairie de New York, il devient le premier musulman et le plus jeune maire de cette ville. Inconnu du grand public il y a moins d'un an, Zoran Mandani a mené une campagne électorale complètement décalée, notamment sur les réseaux sociaux. Le socialiste prône des idées fortes telles que le gel des loyers, la garde des enfants pour tous, la gratuité des bus et la taxation des plus riches. Après son élection, la jeunesse new-yorkaise s'est empressée de descendre dans la rue pour fêter la victoire de son candidat. Les socialistes voient donc dans cette élection un espoir pour la suite, un an jour pour jour après la réélection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Retour à Sainte-Soline, Mediapart et Libération publient plusieurs vidéos compromettantes, consignes illégales, tirs dangereux, insultes. Celles-ci révèlent de très nombreux manquements des gendarmes au cours de cette journée. Environ 200 manifestants et 45 gendarmes avaient été blessés. Pour rappel, les manifestants s'opposent à l'installation d'une méga-bassine à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. La manifestation remonte au 25 mars 2023. Suite aux vidéos choc, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez demande au directeur général de la Gendarmerie nationale d'ouvrir une enquête administrative. 4, 5, 6, 4% des lycéens, 5% des écoliers du CE2 au CM2 et 6% des collégiens sont touchés par le harcèlement scolaire en France. Selon la dernière enquête de l'Éducation nationale de novembre 2023, pour la Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, Eva revient sur la situation aujourd'hui.
4, 5, 6, ce sont des chiffres un peu trop vagues, mais grâce à eux, un chiffre frappant ressort de l'enquête statistique menée auprès des 17 000 élèves français et françaises. Plus d'un élève par classe est harcelé dans le contexte de l'école. Et pour lutter contre le harcèlement scolaire, multiples associations, dont l'association spécialisée dans le développement de l'enfant ASMAE, ont organisé des ateliers de prévention et de sensibilisation dans les établissements français, métropolitaines et en Outre-mer aujourd'hui. Clotilde Durostu, Clotilde Durostu, chargée de mission au sein de l'association ASMAE, nous dit, un atelier de sensibilisation sur 5 se voit être libérateur pour des enfants, je cite, qui vont exprimer un mal-être suite à une situation de harcèlement. Elle était aujourd'hui au collège de Rabelais à Meudon. Et grâce à la création de dessins et par le débat, les enfants étaient amenés aujourd'hui à définir le harcèlement, à comprendre les causes d'un tel agissement et à savoir prévenir et agir dans les cas de harcèlement au sein de leurs écoles, mais aussi cyberharcèlement sur Internet. Au collège de Gombani à Mayotte, des chants et des ciné-débats étaient organisés aujourd'hui également sur la thématique du harcèlement. Au collège, on en parle tout le temps, confie Estelle Landre de la Saugerie à France Info. Par l'intermédiaire d'élèves ambassadeurs et d'une boîte aux lettres, le courrier reçu par les élèves par rapport au harcèlement est traité par une assistante scolaire et par une infirmière et ensuite suivi par une cellule de lutte pour en discuter, explique-t-elle davantage. Grâce à cela, 45 cas d'harcèlement avérés sur un collège de 1800 élèves ont été réglés par ces dispositifs. À l'échelle nationale, l'Académie française dispose aussi d'une cellule de lutte contre le harcèlement scolaire depuis la rentrée 2024. Et le label phare est un label qui est un label de la... Oui, pardon. Et le label phare qui est un plan global de prévention et de traitement des situations de harcèlement est fondé sur 5 piliers, l'éducation, la formation, l'intervention, et l'association des parents et des partenaires et la mobilisation. Et est également un système réalisé, créé par l'éducation nationale et qui est maintenant déjà présent chez 92% des établissements scolaires. Mais pour tout ce qui est psychologique, pour mieux comprendre ce que c'est le harcèlement, une docteure Nicole Kathleen, pédopsychiatre au CHU Henri Laborie de Poitiers et spécialiste des relations des enfants avec la scolarité, elle définit mieux ce qu'est le harcèlement. En 3 points, elle dit que c'est une agression qui dure et qui se répète et qui établit une domination de dominant-dominé, souvent liée à une dynamique de groupe. L'effet de groupe semble être un principal menteur dans 45% des cas selon l'étude de l'association e-enfance. Mais d'autres motivations ressortent de cette étude, comme l'envie de rigoler dans 19% des cas et la vengeance dans 18% des cas. Ces violences peuvent être traduites par 3 catégories, violence physique, comme bousculade, coups, arrachage de cheveux, violence verbale, insulte, humiliation, et violence psychologique, des rumeurs, le mépris, le rejet. D'après la psychologue Fanny Lenné, interviewée par France Bleu ici, multiples conséquences psychologiques et physiques peuvent être engendrées chez ces élèves, comme le trouble du sommeil, l'anorexie, l'addiction, l'apparition d'une agressivité et les baisses des résultats scolaires. Et enfin, je veux revenir sur 2 chiffres qui sont à retenir principalement par ce papier. Le 30-20, le premier numéro d'appel créé pour venir en aide aux victimes de harcèlement scolaire, et le 30-18 qui est le numéro à appeler si vous êtes victime ou témoin de harcèlement.
Merci Eva. Fin d'année compliquée pour le Louvre. Dans un rapport publié aujourd'hui, la Cour des comptes accuse le Louvre d'avoir négligé ses investissements dans l'entretien et la sécurité du musée. Selon le rapport qui porte sur la gestion du musée entre 2018 et 2024, les sages affirment que le Louvre a sciemment privilégié des opérations visibles et attractives au détriment de la sécurité. À la suite de la publication de ce rapport, le musée a répondu que la Cour outrepasse le calendrier fixé. Il évoque le projet des futurs grands travaux présentés en janvier par l'Élysée. Un conseil d'administration du Louvre doit se réunir en urgence dès demain. Rennes, êtes-vous prêts ? Ce week-end, le Parc Expo accueille pour la seconde année consécutive Madame Loyale, un festival électro où plusieurs milliers de festivaliers sont attendus. Ils seront accueillis par plus de 30 DJ sets avec 3 scènes différentes dont un technobus et plus de 20 000 m² de dancefloor. Victime de son succès, le festival mélange de l'électro, du disco, de la house, de la trance et de la techno. Il affiche complet, mais ne perdez pas espoir. Pour ceux qui veulent encore des places, privilégiez inscription en liste d'attente sur la billetterie. Vous n'avez plus besoin d'éthylotest jetable. Installé récemment, 3 bornes éthylotest trônent maintenant dans 3 lieux de consommation d'alcool à Rennes. La machine se nomme Flying Box et permet aux volontaires de tester leur taux d'alcool à tout moment. l'association Prévention et Modération est à l'initiative de cette installation gratuite. Cette campagne pilote avait démarré dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais vous pouvez maintenant les retrouver au Melting Pot, au Life Club et au Delirium jusqu'en 2026.
Merci pour ton journal, Baptiste. Et l'AFKEN a rencontré des livreurs Uber. On écoute tout de suite son reportage.
Je m'appelle Anwar Al-Haq. Ça fait 5 mois que je fais Uber.
Mon nom, c'est Diallo. J'ai fait la livraison presque depuis 2022.
Accompagnés de leur vélo électrique, Anwar Al-Haq et Diallo sont livreurs chez Uber Eats. Pour eux, les dangers sur les routes sont bien réels.
Pour moi, les plus dangereux, c'est les voitures. Ils ne respectent pas les vélos, c'est grave quand même.
Et c'est pas dangereux, tu trouves, quand tu dois regarder le GPS et en même temps gérer la route, si en plus il fait nuit et tout?
Non, comme je suis habitué, c'est pas dangereux.
Hier, Diallo a été heurté par une voiture qui roulait à contresens. Un collègue d'Anwar Al-Haq aussi a été percuté par le passé.
Elle a parti à l'hôpital.
Pour les deux livreurs, une solution existe pourtant.
S'il y a les routes des vélos à part, les voitures à part, ça causerait moins de problèmes.
Mais alors que novembre débute, les quatre roues ne sont plus leur seule préoccupation.
Au niveau de l'hiver, là, ça fait peur, hein. Parce qu'il y a la pluie, il y a le vent, quand il fait nuit, il y a les véhicules aussi, il y a d'autres qui ne contrôlent pas.
Diallo et Anwar Al-Haq avouent qu'ils ont peur des pavés glissants, de la fatigue et des routes mal éclairées, surtout en campagne. Pourtant, leurs vélos sont équipés, bandes réfléchissantes, lumière avant et arrière. Mais quand on leur demande si Uber les aide à se sentir plus en sécurité sur les routes, ils répondent
« Ah là, Uber, t'as donc rien. »
Est-ce que Uber, il vous donne des consignes de sécurité, de matériel, etc.?
Le matériel, c'est nous, on a 7 ans. Ils ne donnent pas le matériel quand même. Pas de formation. Les consignes de sécurité, presque, ça n'existe pas. Hein.
Tu peux contacter Uber? Est-ce qu'ils font quelque chose pour toi si t'as un accident à vélo?
Non, rien. Il ne fait rien. Quand il fait un accident, c'est à toi de débrouiller. Et il ne fait que rembourser les clients. Le reste là, c'est pour toi.
Sur son site web, Uber Eats décrit pourtant des mesures pour mieux protéger ses livreurs. Contacté par mail, Uber n'a pas souhaité donner lieu à un échange téléphonique. La plateforme a cependant confirmé les dispositions disponibles sur son site.
Là, vous avez une course de 10 km à faire.
Ouais, ça, c'est 10 km. C'est bon.
Merci à l'AFKEN pour son reportage.
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Et il est presque plus vraiment 6h avant minuit. Mais c'est l'heure de retrouver notre invité. Marion, tu reçois qui ?
Bonjour. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Jérôme Launay, responsable du pôle multimédia de la médiathèque du Préambule de Novoitou, qui porte une superbe chemise rayée aujourd'hui. Est-ce que tu préfères qu'on se voit, qu'on se tutoie? C'est toi qui me dis.
Bonsoir Marion. Le tutoiement, ça me va très bien.
Super. Donc tu es à l'initiative pour la troisième fois de l'exposition Passion, centrée cette année sur le jeu vidéo. Qu'est-ce qu'on peut voir lors de l'exposition Passion jeu vidéo?
L'exposition Passion jeux vidéo se déroule à la bibliothèque, elle est visible sur les heures d'ouverture. Et le principe, c'était de co-construire cette exposition avec les usagers de la médiathèque. Donc, pour éviter les barbarismes de bibliothécaires, on peut dire tout simplement avec des Nouveau-Atoussiens et des Nouveau-Atoussiennes. Bon, on n'a que des Nouveau-Atoussiens sur ce coup-là, ben voilà, la quarantenaire. Mais ou plus jeune, hein, je veux que ces personnes s'y m'écoutent. On a co-construit ensemble l'exposition. Donc, on est parti de l'idée, d'une frise de l'histoire du jeu vidéo sur lequel eux, ils s'inséraient dans leur vie et dans leur passion. Quels jeux ils ont aimés, à quelle époque, comment ils ont découvert le jeu vidéo. Et également, du coup, ils m'ont proposé de faire aussi des panneaux thématiques. Donc, on a pas mal de thèmes qui sont abordés, la question du sexisme dans le jeu vidéo, les jeux vidéo avec un sens important, avec du scénario, quoi, comme Chain of Senar, des choses comme ça. Et également, la technique, la conservation du jeu vidéo, donc un truc de bibliothécaire, mais c'est pas moi qui l'ai proposé, c'est eux. Voilà, on va trouver ça. On va trouver également, du coup, des machines exposées. Donc, il y a des machines que vous connaissez tous et toutes, comme la Game Boy, par exemple. Alors ça, tout le monde la reconnaît. Mais on a également également quelques autres consoles et un peu de matériel aussi de rétro gaming, comme un Raspberry qui est exposé, donc qui ne prend pas beaucoup de place, tout petit quoi. Et par contre, il est aussi utilisé, on le retrouve, on a une machine d'arcade sur laquelle on peut jouer. Pour tester justement les vieux jeux. Alors, je ne vais pas citer de nom, il faudra venir voir. Et également, alors quelque chose de plus étonnant, puisque les machines d'arcade avec des jeux en rétro gaming, on en trouve un peu partout. En tout cas, en cherchant un peu, on peut trouver. Là, on a un flipper, du coup. Donc là, c'est un peu plus qu'un Raspberry qu'il y a dedans. Et c'est donc Philippe hein, qui est coordinateur des bénévoles et qui est bénévole lui-même sur l'exposition, qui l'a fabriqué et ramené. Donc on est sur un flipper qui est dans un corps de flipper, mais dans lequel on trouve 5 ou 6 flippers différents. Je ne vous dis pas comment il est fabriqué, il faudra venir voir, mais c'est vraiment super cool.
L'exposition Passion, elle existe depuis 2017, si je ne dis pas de bêtises.
Exactement. Ouais.
La première année, elle s'était intéressée au Solex. Comment vous choisissiez le thème des expositions ?
Alors, le thème des expositions, il est choisi tout simplement en fonction des propositions que font les Novatoussiens et les Novatoussiennes aussi. Et donc, le premier, c'est vraiment des personnes qui étaient bénévoles et usagers de la médiathèque, qui participaient activement, hein, du coup, au fonctionnement de la médiathèque, qui se sont proposés parce qu'ils faisaient une course d'endurance sur le même principe que Rock and Solex en plus petit, puisqu'on est plus petit que Rennes, et du coup en plus court surtout. Et donc c'était vraiment des passionnés, donc ils ont exposé des moteurs, ils expliquaient comment fonctionnait le vélo Solex, d'où est-ce que ça venait, quelle importance ça avait pu avoir. Voilà, et donc c'était très chouette, surtout ça avait amené des gens très très différents des personnes qu'on rencontrait à la bibliothèque. Et nous on a la volonté d'être une bibliothèque qui est vraiment ouverte sur la société, pour dire un grand mot, mais surtout où tout le monde se sent à l'aise pour rentrer. On pense que c'est un des principes fondamentaux des bibliothèques. Et effectivement, ça avait marché. On avait donc des gens qui arrivaient les mains sorties des moteurs, encore avec la graisse noire, qui rentraient dans la bibliothèque. C'était très cool. Et du coup, on a eu une autre proposition. Je ne sais plus l'année, j'ai dû noter, mais c'était sur l'anniversaire des 24 heures du Mans. Donc là, voilà, c'était des passionnés de sport automobile. Donc c'est comme pour les Solex, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement attendu en bibliothèque. C'est assez étonnant comme thème. Et voilà, ça s'était aussi très bien passé. Et de la même façon, on avait eu des rencontres qui étaient chouettes. Pour les personnes qui ont participé à l'expo, comme pour les personnes qui l'ont visité. Et là, donc, on a eu une proposition d'exposition de la part de plusieurs usagers autour du jeu vidéo. Comme il y avait une trop petite équipe, moi j'ai aussi fait un appel en janvier de l'année dernière pour avoir des personnes en plus qui étaient intéressées, qui voulaient partager leur passion. Et c'est de là que vient le travail. Donc c'est 2 ans de travail en fait pour monter une exposition de ce type, avec du travail de coordination, des propositions d'écriture, de la réécriture de ma part et de la mise en page, enfin de la réécriture pour que ça rentre dans les cases de la PAO. C'était vraiment, vraiment super chouette à faire. Et puis, on est très contents du résultat. Si vous venez la voir, donc demain, il y a le vernissage, demain soir à 18h. Si vous venez la voir, vous verrez, c'est très chouette, quoi. C'est vraiment une super expo.
Donc, tu l'as dit, hein, c'est une exposition qui repose sur la participation des bénévoles surtout. Vous avez donc d'ailleurs lancé donc un appel à contribution pour acquérir du matériel. Est-ce que vous avez pu réunir tout le matériel que vous souhaitiez ?
Oui, en fait, on avait même trop de matériel. On a dû faire le tri parce qu'entre autres, y avait pas mal de choses qui étaient du rétro gaming. Et aujourd'hui, j'ai appris en faisant les papiers pour la valeur de l'exposition qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas exposer parce que ça faisait vraiment monter trop vite le coût de l'exposition. Parce qu'après, bon, vous imaginez bien qu'il y a des questions d'assurance, des choses comme ça, et puis de sécurité aussi. Et donc, il y a certains jeux, je ne savais pas du tout qu'ils étaient cotés à ces prix-là. J'ai dû les sortir de l'expo. Donc, on a même pu choisir ensemble ce qu'on allait mettre dans l'exposition. Et effectivement, ça rappelle des souvenirs à pas mal de monde, quel que soit l'âge d'ailleurs. Ça, c'est une grande réussite de l'expo, c'est qu'on voit qu'il y a des âges très très différents qui s'arrêtent, les gens qui s'arrêtent pour voir visiter l'expo et pour jouer aussi. Il y a des gens qui ont connu les jeux forains, dans le sens les bornes d'arcade, les flippers, on va appeler Voilà, c'est des jeux forains, dans le principe, en tout cas à la base, dans lequel on met des jeux vidéo. Et là, il y a plein de gens qui découvrent cette époque-là ou qui la connaissent et qui se la remémorent avec plaisir. Et puis, ben voilà, il y a les autres matériaux exposés, les vieilles consoles. Moi, j'avais une PlayStation 2. Moi, j'avais un Mario Regard. Mon frère, il avait ça. Enfin, voilà, c'est très, très chouette. Il y a aussi des mamans qui font découvrir, qui n'avaient pas l'air du tout branchés les jeux vidéo et qui font découvrir les jeux de combat à leurs enfants. Donc, c'est vraiment de l'intergénérationnel. Générationnel, c'est très chouette. Et en plus, ils peuvent rester jouer à la médiathèque puisqu'on a aussi une PS5 sur place. Voilà pour les jeux plus récents.
Vous avez donc proposé aussi aux bénévoles de créer des panneaux d'affichage pour l'exposition. Vous aviez donné sur votre site des idées de thématiques à aborder autour de l'univers des jeux vidéo. On en parlait tout à l'heure. Par exemple, tu citais le sexisme dans le jeu vidéo. Est-ce que, selon toi, les femmes aujourd'hui sont exclues de ce milieu et si oui, pourquoi? Qu'est-ce que tu en penses?
Pour repartir sur ce qu'on présente dans l'exposition, il y a la question du harcèlement en ligne, donc on en parle. Ça, c'est quelque chose qui est problématique, qui empêche les femmes de s'impliquer dans les communautés, dans les compétitions. On a bien conscience que la moitié des joueurs sont des joueuses et que, par contre, dans les équipes, on va dire, qu'on vive, les équipes pro ou semi-pro, on se retrouve avec des équipes masculines. Donc ça, voilà, on a abordé ce sujet-là par ce biais-là, et puis aussi l'image qui était renvoyée par certains jeux vidéo qui étaient majoritaires avant sur du coup l'image des femmes en général, en les chosifiant, en sexualisant à outrance, quoi.
L'objectif de l'exposition, c'est aussi donc de retracer un petit peu l'histoire et l'évolution du jeu vidéo. Tu parlais par exemple du rétro gaming. Est-ce que c'est un milieu qui est quand même plus accessible qu'auparavant?
Le rétro gaming en général.
L'univers du jeu vidéo, est-ce qu'aujourd'hui on y a accès quand même plus facilement?
C'est devenu la principale industrie culturelle en France. C'est une industrie culturelle très importante au niveau mondial. Nous, on a le plaisir d'avoir la reconnaissance du côté culturel du jeu vidéo via, par exemple, le travail que fait la Bibliothèque nationale de France, qui justement conserve les jeux vidéo, tous les jeux vidéo qui sortent en France. Du coup, il y a une forme de reconnaissance qui fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'en parler, en tout cas dans les milieux culturels. Et puis, le fait que ce soit la première industrie, c'est qu'elle est aussi présente un peu partout, et que c'est quand même beaucoup plus simple d'accès que ça n'était à l'époque, quand c'était juste des discussions de cours de récré, ou tout au début, des jeux directement uniquement dans les laboratoires du MIT pour les tout premiers jeux vidéo. On est arrivé vraiment à quelque chose qui est un phénomène culturel mondial, qui est reconnu comme tel. C'est aussi, on sait très bien que faire cette exposition-là, c'est aussi lié à ça. D'ailleurs, nous, on prête du jeu vidéo à la médiathèque. Comme je disais, on peut jouer aux jeux vidéo avec des jeux vidéo récents, avec la PlayStation de la médiathèque. C'est plus accessible.
Aujourd'hui, la plateforme Twitch, c'est un peu aussi le lieu virtuel où se retrouvent les gamers. Pourquoi c'était important de faire découvrir le monde des jeux vidéo dans un cadre physique?
Déjà parce qu'on a une très belle bande d'arcade. Le flipper, pareil, il ne rentrait pas sur Twitch, mais en forçant un peu, ça passait pas dans le port USB. On vous l'avait envié aussi que les gens qui n'étaient pas concernés, qui n'avaient pas cherché sur Twitch à voir ce qui se passait, puissent aussi en profiter concrètement, avoir la surprise aussi en venant chercher ses bandes dessinées ou son roman, de voir que de se retrouver face à une exposition de jeux vidéo, de pouvoir s'arrêter, de lire, de se renseigner, et puis de découvrir des choses qu'ils connaissaient déjà ou des choses qu'ils avaient ratées, puisque on découvre aussi, quoi.
Est-ce que si tu devais me donner une chose à voir lors de l'exposition, ça serait quoi?
Moi, j'ai été très surpris par le flipper. C'est vraiment un objet assez dingue. Encore merci à Philippe de nous l'avoir prêté dans le cadre de l'expo. Après, je vais dire que tout est bien, parce que c'est une expo qu'on a fait ensemble. Elle est chouette, elle a une bonne tête et elle est vraiment accessible à tout le monde. Elle n'est pas réservée ni aux geeks, ni aux littéraires, ni aux personnes qu'on imagine pouvoir rentrer dans une bibliothèque. C'est vraiment ouvert à tout le monde, quoi.
Okay. Est-ce que tu aurais peut-être une anecdote à nous partager liée aux jeux vidéo? Ça peut être dans le cadre de l'exposition, peut-être des difficultés ou des choses insolites qui vous sont arrivées, ou alors toute autre chose. ce que tu veux.
Désolé pour les... Alors moi, c'est une anecdote récente. C'était une personne qui était une grande lectrice qui participe à plusieurs clubs de lecture de la médiathèque, qui était, voilà, qu'on connaissait en tant qu'usagère plutôt sur les romans, quoi. Et qu'on n'avait jamais vu toucher un écran. Enfin, bien sûr que peut-être un ordinateur chez elle, hein, je dis ça. Nous, c'est ce qu'on envoyait. Et du coup, elle est venue lire à la médiathèque. Elle s'est posée, puisqu'on peut tout à fait se poser, prendre un café tranquillement. Et elle regardait le flipper toutes les 20 secondes. Et au bout d'un moment, elle est allée jouer. Elle a passé 2 heures dessus. Elle était heureuse. Ça faisait vraiment plaisir de voir, voilà, que ce qu'on voulait faire fonctionnait parfaitement, quoi.
En parallèle de l'exposition, il y a aussi le Pixel Day, donc, qui se déroule à Verne-sur-Sèche, qui commence, il me semble, le samedi 15 novembre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ?
Oui, en fait, on travaille avec plusieurs bibliothèques. On est 5 bibliothèques à travailler ensemble. Il y a Saint-Armel, Champy, Nouveau-Atout, Verne-sur-Sèche et Corniche. On travaille ensemble dans ce qui peut ressembler à un réseau, mais c'est une coordination, en fait, une mutualisation ensemble qui s'appelle Mosaïque. Et donc, on fait plusieurs actions ensemble. On a un prix BD, par exemple, en cours. On a également, du coup, on fait les nuits de la lecture ensemble. Et également, on a plusieurs journées qui s'appellent donc les journées du Pixel Play, qui se déroulent du premier tournoi, qui a lieu en général à la fin des vacances ou au début septembre, jusqu'au dernier tournoi avant la journée Pixel Day, qui a lieu effectivement le 15 novembre. Et donc les vainqueurs et gagnantes des tournois se rencontrent à la grande finale le jour du Pixel Day. Donc ça, on était parti un peu là-dessus au départ, et en fait, on a énormément d'animations qui sont faites le même jour, des animations VR. Il y aura un Mario Kart live dans la bibliothèque, donc il y a tout un circuit qui va être mis dans la bibliothèque. La grande finale, du coup, c'est une grande finale de Taiko no Tatsujin, qui est un excellent jeu de rythme japonais. Et il y aura aussi des découvertes de jeux indépendants, les découvertes des jeux vidéo qu'on propose, du coup, dans nos médiathèques. Également, on a fait d'autres animations, donc cette exposition rentre dans le cadre du Pixel Play. Et également, on a fait un ciné-concert autour du jeu Abzu, qui était vraiment super chouette, qui se déroulait à Nouveau-Atout au mois d'octobre. Donc des animations complètes qui finissent sur une super journée le 15 novembre, auquel tout le monde est convié, hein, c'est pas réservé aux gens de ces 5 communes, quoi, hein, vous pouvez tout à fait venir.
Donc tu le disais au début de l'interview, le vernissage de l'exposition pour Passion Jeux Vidéo, elle a lieu demain. Comment tu te sens un peu à la veille de l'ouverture? Comment vous vous sentez avec les bénévoles? Est-ce qu'il y a un peu de stress qui monte?
Ah, trop de stress, j'ai l'impression d'être Mike Tyson avant son dernier match. Non. Ça se passe bien, on a vraiment du plaisir à recevoir des gens à la bibliothèque. On fait beaucoup d'expositions, on est une bibliothèque avec beaucoup d'animations. Et donc des expositions, on en fait pas mal. Et à chaque fois, c'est vraiment un grand plaisir de recevoir des gens très divers. Voilà, il y aura une présentation, vous pourrez rencontrer les gens qui ont participé à l'exposition. Il y a des caractères très différents, même si, comme je disais, les âges et le genre, c'est... voilà. Des garçons de 40 ans. Mais du coup, voilà, vous allez voir, il y a des gens très très différents et qui ont beaucoup de choses à dire, qui ont des implications dans les jeux vidéo très différentes aussi. Ça va être super chouette.
Eh bien, merci à toi d'être venu.
Pour rappel,
merci. L'exposition Passion Jeux Vidéo se déroule donc du vendredi 7 novembre au samedi 29 novembre à la médiathèque Préambule à Nouveau-Atout.
Merci pour ton interview, Marion.
6 heures avant minuit. 6 heures
avant minuit.
On est toujours sur Syllab dans 6 heures avant minuit. Et à l'heure où l'entreprise de production de vêtements Shein est au cœur de plusieurs polémiques, l'ouverture de locaux en physique à Paris et l'affaire des poupées sexuelles en vente sur leur site, la fast fashion n'a jamais autant pris de place dans nos vies. Domiti revient sur les effets de ce fléau.
La fast fashion étouffe les enseignes écologiques de tri vestimentaire. Vous n'êtes pas sans savoir que la fast fashion est un véritable fléau écologique qui touche notre génération. Selon le site WeDressFair, la fast fashion désigne un segment de l'industrie de la mode qui produit des vêtements très rapidement et en grande quantité avec un renouvellement fréquent des collections. C'est un modèle économique qui repose sur des prix bas et une qualité souvent médiocre. Si je vous parle par exemple de Temu, Shein ou encore Bershka ou Zara, vous avez tous connaissance des innombrables habits qui y sont créés. Et bah ces entreprises, justement, elles jouent sur un capitalisme notable et sur les nouvelles tendances à la mode pour pousser le consommateur à l'achat. Le but n'étant que de faire déborder la garde-robe, puisque si l'on regarde d'un point de vue plus externe, on s'aperçoit que l'habit dure peu dans le temps et surtout qu'il peut même être nocif pour la santé. En moyenne, un habit est porté 7 à 10 fois avant d'être jeté ou oublié. Mais cette moyenne peut descendre à 3 ou 4 fois pour certains articles très tendance ou trop bon marché. Les personnes en première ligne de cette surconsommation sont les jeunes qui sont très influencés par les réseaux sociaux. Car sur internet, tout va très vite. On passe d'une paire de chaussures à un pull tendance en quelques secondes et on nous persuade qu'il nous le faut absolument. En réalité, il sera porté une fois, puis dès que la photo sera faite, c'est le vêtement direction les oubliettes. Pourtant, on le sait, un vêtement de qualité ou issu de mode durable peut être porté plus de 100 fois sur plusieurs années. Par ailleurs, la fast fashion, elle est responsable de 10% des émissions mondiales de CO2 liées à son industrie. Et par-dessus tout, elle génère des montagnes de déchets textiles inutilisables ou en matière non recyclable. Alors j'en ai parlé plus haut, mais je pense qu'il est important de rappeler que les vêtements de fast fashion peuvent être nocifs pour la santé humaine car elles contiennent des substances chimiques qui peuvent provoquer des irritations, des troubles hormonaux, voire même présentent des risques cancérogènes. Alors ces produits chimiques ne sont certainement pas sans conséquence, puisque lorsque les habits portés seulement quelques fois sont jetés ou mis à la décharge, ils ne peuvent plus être recyclés ou revendus de façon raisonnable ou éco-responsable. Et c'est en partie lié à ce qu'ils contiennent. Par exemple, France 3 Val-de-Loire exprimait en juillet dernier une action du collectif Le Relais. Alors Le Relais, c'est une association à échelle nationale qui se charge de récupérer, trier et transformer ces tonnes de vêtements. Cependant, cet été, l'asso s'est retrouvée extrêmement embourbée, si je puis dire, face à la surconsommation de fast fashion et ne pouvait plus assurer les tris ainsi que le recyclage. Parce que justement, il y a une explosion des volumes à trier qui rend le modèle non viable avec un manque de soutien et de main-d'œuvre qui suit. Par ailleurs, si des structures comme le relais disparaissent, cela entraînerait un retour à l'enfouissement ou à l'incinération de centaines de milliers de tonnes de textiles de plus en plus toxiques. Alors ces difficultés, on les retrouve aussi à la Croix-Rouge française, car les antennes locales sont saturées par les vêtements et plus de la moitié des vêtements ne sont jamais portés. De même pour Emmaüs, qui est confrontée à une augmentation massive des volumes, souvent de mauvaise qualité, ce qui fait ralentir le tri et augmente les coûts de stockage. C'est là que tout se joue. Il faut pousser les consommateurs à réfléchir autrement, car quand bien même vous redonnez vos vêtements à une association de recyclage ou de tri, il ne faut pas oublier que la source du problème est le capitalisme et la société de consommation qui vous a poussé directement à acheter un produit sans vous décrire ce qui se passe derrière. Vous n'êtes pas fautif. Le meilleur geste écologique que je puisse vous conseiller, c'est de faire attention à d'où viennent vos produits et surtout de faire la technique bisou. Alors elle sonne super mignonne la technique bisou, mais elle est surtout très pratique. Le B correspond à besoin, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit? Le I correspond à immédiat, est-ce que je dois l'acheter maintenant? Le S correspond à semblable, est-ce que j'ai déjà quelque chose de similaire dans ma garde-robe? Le O correspond à origine, quelle est l'origine du produit, le minimum de renseignements, qu'est-ce qu'il contient aussi? Et le U correspond à utile, est-ce que ce sera utile pour moi? Bien, pour finir, je sais que faire attention à sa consommation est un travail de longue haleine et que ce n'est pas de tout repos dans notre société actuelle. Mais je l'assure, avec de la volonté et même si je puis dire des bisous, on ne peut que promettre un avenir meilleur en termes d'écologie.
On ne le répétera jamais assez, le vrai problème c'est le capitalisme. Merci Domiti pour tes conseils et tes éclaircissements. Eh bien, pour rien de vous cacher, tout le monde a fui dans le studio, nous sommes seuls.
Non, moi je suis là.
Heureusement, Emma est là, elle est là, elle est restée avec moi. Bah, tu veux regarder si on a un message sur le répondeur ?
Pourquoi pas.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllab, la radio sauvage.
Alors ?
Il n'y a rien.
Oh non, mais...
On n'a rien, Jeanne.
Combien de fois il faudra vous le dire ? Si vous avez quelque chose à dire, à vendre, à revendiquer, et je suis sûre que c'est le cas, téléphonez-nous. C'est le 02, le 30, le 96, le 25, le 35. C'est un peu l'auto comme ambiance. Appelez-nous et laissez-nous un message.
C'est le numéro gagnant ?
C'est le numéro gagnant. Appelez-nous au numéro gagnant. Très bonne vanne, ça y va. Moi, je l'aime bien. Je vois Maud un peu qui se fiche de toi derrière la vitre. Merci à elle d'ailleurs pour cette technique formidable. C'est la fin d'émission et demain, il n'y a pas d'émission comme à l'accoutumée. On se retrouve lundi. Ça ne sera pas moi, c'est le retour d'Héloïse qu'on
embrasse. Il n'y a pas d'émission lundi, Jeanne.
Et ben, heureusement qu'on était deux dans ce studio, que tu ne m'as pas laissé tomber. J'aurais voilà, une fausse info, une fake news. Il n'y a pas d'émission lundi, on se retrouve bientôt. Bonne soirée à vous.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18 heures, 19 heures, sur Syllab, la radio sauvage.